Donc pour nous, nous continuons notre étude sur la famille. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autorité. Et j'aimerais démarrer notre étude donc dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1. Donc vous cherchez Genèse chapitre 12 à partir du verset 1. Puis je voudrais aussi vous lire un verset du Nouveau Testament avant de lire Genèse chapitre 12. Le texte biblique c'est Romains chapitre 13 verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Je vous relis. Romains chapitre 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Maintenant, nous allons lire dans la Genèse. Chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, donc, là, Abraham, il entre dans l'histoire étant appelé Abraham. Et plus tard, Dieu va changer son nom à Abraham. Mais pour l'instant, il s'appelle Abraham. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. » Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot, on dit Lot ou Lot?
Lot.
Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Shikem, ou Sikem, jusqu'aux chaînes de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Donc je vous ai lu tout à l'heure, dans Romains chapitre 13, cette idée que toute autorité vient de Dieu. Je vais le lire encore. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc cette idée de l'autorité, ça veut dire qu'il y a de l'ordre, que la vie doit être ordonnée. Le Nouveau Testament nous dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Et donc, Dieu a établi les autorités. Être dans l'autorité, donc, veut dire aussi qu'on a un pouvoir. Des fois, on n'est pas très content avec ceux qui sont en pouvoir, parce qu'ils ont l'autorité de faire les choses et ils prennent les décisions que nous n'aimons pas. Que ce soit le président ou les sénateurs ou je sais pas, les magistrats, eh bien, ils ont le pouvoir, ils sont dans le pouvoir et ils font comme ils veulent parce qu'on les a conféré ce pouvoir. L'autorité veut dire aussi responsabilité. Parce que justement, celui qui est dans l'autorité, qui a ce pouvoir, il est responsable de comment il va agir et les décisions qu'il va prendre. Et aussi, quand on est dans l'autorité, ça veut dire qu'on a un devoir de protéger ce sur lequel nous avons cette autorité. Nous devons, c'est-à-dire ceux dans l'autorité, doivent assurer la sécurité. Et c'est pour ça que les nations, les pays ont des militaires pour se protéger des pays voisins ou lointains qui voudraient peut-être venir accaparer de leur pays. Donc, il faut que l'autorité s'assure de la sécurité. Alors, j'ai une étude, on ne va pas le voir, mais quelques détails je voudrais dire concernant l'autorité. Donc, en prenant Romains chapitre 13, verset 1 comme le point de départ, hein, je le lis encore, hein, on va mémoriser ce verset, « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. » Alors, dans le contexte, Romains chapitre 12 donne une exhortation, des exhortations particulières et générales, dans le but que l'on fasse le bien et qu'on surmonte le mal. Ça, c'est dans Romains chapitre 12. Et dans le chapitre 13, Romains chapitre 13, explique la nécessité d'avoir un gouvernement. Explique la nécessité d'avoir des forces de l'ordre, des lois, des impôts, etc. Dans Romains chapitre 13. Eh bien, le disciple de Jésus-Christ devrait être en même temps un bon citoyen et un bon chrétien. Le chrétien, en appliquant Romains chapitre 13, doit être un bon citoyen et un bon chrétien. Alors, il y a beaucoup d'autorités. Dieu a créé les autorités. Il dit que les autorités qui existent sont là parce que Dieu les a établies. Quelles sont les autorités? Premièrement, Dieu est lui-même l'autorité suprême et absolue pour l'univers ainsi que pour nos vies. Ça, c'est la première autorité. Quand il y a un conflit entre les lois du gouvernement et les lois de Dieu, on doit suivre les lois de Dieu, mais on doit subir les conséquences de ne pas suivre les lois. Donc, vous faites une bonne décision de réflexion, bien réfléchi avant de dire, moi, je ne vais pas respecter les lois du pays. Hein, parce qu'évidemment, il y aura des conséquences néfastes. Hein? Donc, la première autorité, c'est Dieu. Après, Dieu a créé des autorités spirituelles. Dans les lieux célestes, dans les esprits, les choses que nous ne pouvons pas voir, mais il y a donc ces autorités spirituelles, des divers niveaux de puissance spirituelle. Dieu a aussi établi les autorités ou les lois de la nature. Nous n'allons pas entrer dans la question, je le mentionne uniquement. Dieu a établi des autorités parmi les hommes. On va revenir. Et principalement, donc, il y a les autorités dans la famille, qu'on va voir aujourd'hui. Il y a l'autorité dans l'Église, que nous n'allons pas voir aujourd'hui. Il y a l'autorité du gouvernement, et il y a des autorités au travail. N'est-ce pas? C'est plein d'autorités, mais nous allons viser, donc, la question de la famille. Dans le chapitre 12 de la Genèse, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Et au verset 4, il dit, « Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. » Donc, Abraham a obéi à Dieu. Abraham obéit à Dieu. Donc, on voit déjà l'idée que le chrétien doit obéir à Dieu. Hein? Le chrétien doit obéir à Dieu. Désobéir, c'est la transgression. C'est-à-dire, désobéir, ça veut dire, je sais ce que Dieu veut, mais je ne veux pas le faire. Donc, je vais désobéir. Donc, c'est une transgression. Et donc, c'est un péché. Quand je ne veux pas faire ce que Dieu veut que je fasse, c'est un péché. Parce que je suis désobéissant envers Dieu. Aussi, le chrétien doit obéir aux autorités. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si on n'obéisse pas aux autorités, eh bien, les autorités ont le droit de punir. Ça ne veut pas dire que les pouvoirs vont le faire. Hein? Ils vont peut-être être gracieux, hein? Comme ils sont très souvent, surtout en France. Mais ils ont le droit de punir, parce qu'on n'a pas respecté les lois du pays. Donc ça, j'ai mis sous le rubrique, Dieu est l'autorité suprême. L'individu, nous les chrétiens, doivent obéir à Dieu. Nous les chrétiens, doivent obéir aux lois du pays. Mais comme j'ai dit, il y a aussi l'autorité dans la famille. C'est la famille d'Abraham qui est partie avec lui. Il dit qu'il est parti avec Lot. Il est parti avec Sarai, sa femme. Et il est parti avec les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. D'accord? Donc, c'était une affaire de famille. J'ai traduit un texte pour le bien ou pour le mal. Donc, je vais voir si je peux pas retrouver cette feuille que j'ai traduite. Oh oui, c'est là. Donc, voilà. L'idée de la famille dans la Bible, parce qu'Abraham, il est dans la Bible, il a vécu dans l'Antiquité. L'idée de la famille dans la Bible est bien différente de nos institutions modernes. Donc, voilà, j'ai écrit sur cette feuille-là notre idée de la famille. Vous regardez, hein? Il y a le père, il y a la mère, il y a les enfants. Pour nous, ça c'est la famille. Mais dans l'Antiquité et dans d'autres pays, aujourd'hui même, hein, l'idée de la famille est encore bien différente. La famille hébraïque était plus grande que nos familles comprenant, donc, c'est écrit à l'autre côté, hein, le père du foyer, hein, eh bien, il y avait ses parents âgés à lui, donc s'il avait les parents qui ne pouvaient plus s'occuper d'eux-mêmes, donc ils venaient chez le fils. Il y avait sa femme, ou le cas échéant, ses femmes, parce que dans l'Antiquité, et même dans beaucoup de pays aujourd'hui, il y a la polygamie, la bigamie et la polygamie. Il y avait ses enfants. Il y avait, parce que je suis en train de lire ce que j'ai traduit, mais là, je n'ai pas suivi exactement l'ordre. Donc, ses enfants, il y avait ses filles et ses beaux-fils. Il y avait ses filles et ses beaux-fils. Alors, notons qu'il respecte l'ordre qui était donné, que l'homme doit quitter sa famille et s'attacher à sa femme, tandis que la femme, et dans le contexte, la femme avait toujours besoin de la protection de sa famille. Intéressant, n'est-ce pas? Et donc, les filles avec le mari se trouvaient dans la famille du père, du beau-père, n'est-ce pas? Et puis, il y avait des esclaves. Alors, il ne faut pas oublier que les machines de l'Antiquité étaient les esclaves. Il y a même, je crois, quelques machines dans la cuisine qui s'appellent l'esclave. Hein, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'on a donné ce nom à une certaine machine dans la cuisine. Parce que dans le temps, pour faire toutes ces choses qu'il fallait faire, pour préparer les repas et écraser les graines et tout ça, il fallait beaucoup de monde. Aujourd'hui, on a un lave-linge, on a un lave-vaisselle, on a le robot pour mélanger les choses, on a le fer à passer électrique, on a toutes les choses. Même le four, il n'y a pas de bois qu'on met dedans. Il n'y a personne qui s'occupe de ça, on allume. Mais dans le temps, ça prenait beaucoup de personnes pour faire fonctionner un foyer. Ça va? Donc, il y avait aussi les autres. Et puis, il y avait là, peut-être aussi les étrangers qui étaient sous la protection du Père. Alors ça, c'est une idée qui est quand même, aujourd'hui même, actuelle dans les cultures arabes. Hein, l'idée d'être sous la protection de la personne principale dans la famille. Le mariage était un arrangement entre le père du mari et la famille de la mariée. Il fallait payer un dot à son père. La polygamie et le concubinage étaient pratiquées, mais non pas agréées par Dieu. Le mari pouvait se divorcer de sa femme, mais la femme n'avait pas le droit de se divorcer de son mari. Là, on parle de dans l'Antiquité. On ne parle pas des lois en France. Hein? On ne parle pas d'aujourd'hui. On parle de dans l'Antiquité. Quand Abraham était là, il aurait pu dire à Sarah, « Va-t'en, je me divorce de toi. » Mais elle ne pouvait pas dire la même chose à lui. Hein? C'était différent à l'époque. Le père de famille avait le pouvoir de vie et de mort sur ses enfants. Même dans la Bible, Moïse l'avait marqué. Hein? Déshonorer l'un des parents, c'est-à-dire la mère ou le père, était punissable par la peine de mort. L'idée de la famille dans le Nouveau Testament a suivi l'idée de l'Ancien Testament. Parents et enfants, mari et femme, maître et esclave sont exhortés à vivre harmonieusement ensemble. Donc ça donne un aperçu de l'idée de la famille telle qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Regardez maintenant dans Actes chapitre 16. Gardez votre droite dans la Genèse, mais regardons aussi dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, à partir de verset 25. Donc là, on a Paul et Silas qui sont emprisonnés. Je crois que c'est à Philippe, si je ne me trompe pas. Oui, à Philippe. Et donc, ils sont en prison. Vers le milieu de la nuit, Actes chapitre 16, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi que à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille, ce qu'il avait cru en Dieu. Alors j'ai lu ce long texte, pourquoi? Parce qu'on voit une famille là. Alors pensez-vous que cette famille ressemble à ça? Ou à ça? Ça ressemble à ça. Il n'y a aucune mention ici qu'il y a des bébés dans cette famille. Mais nous savons que les gens se réjouissaient du fait que ceux qui ont cru en Dieu étaient sauvés. Et nous savons que les petits bébés ne croient rien, ils ne savent rien. Mais que les gens plus grands, ils peuvent réfléchir et ils peuvent croire. Et donc, on a dans ce texte, donc, le fait que le geôlier, quand il a observé, évidemment, il avait déjà entendu les chants et les témoignages de Paul et de Silas, il s'est endormi, il y a tout cet événement, et quand il voit qu'il y a ce grand, on va dire, miracle, c'était le tremblement de terre, etc., et que les prisonniers ne se sont pas enfuis, il se jette là en disant, que dois-je faire pour être sauvé? Ben, la première question, qui peut être sauvé? N'importe qui peut être sauvé. Même le geôlier peut être sauvé. Mais il faut qu'il réfléchisse quand même. Et il a réfléchi. Il voulait être sauvé. Donc il pose des questions. Que dois-je faire pour être sauvé? Et la réponse est, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et c'est la même chose pour tous les gens qui sont dans ta famille. Tous qui croient seront sauvés. Donc, le geôlier, au lieu de faire expliquer l'évangile sur place, il les amène chez les siens. C'est au milieu de la nuit. Cet événement, c'est au milieu de la nuit. Il arrive à la maison, il secoue les portes et tout ça, tout le monde est réveillé, venez écouter ce que dit cet homme. Et donc, tous les gens se sont réunis. Donc là, c'est s'il y avait des parents, s'il y avait des femmes, ou une seule femme, ou des femmes, je ne sais pas, les enfants, les esclaves, les filles, les beaux-fils, les autres, les étrangers sur sa protection, tout le monde qui était dans la maison est venu. Et tous ceux qui ont cru étaient sauvés, et le texte nous dit qu'ils étaient aussi baptisés. Hein? Donc je trouve que c'est très intéressant. D'accord? Donc verset 31, je lis encore. Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il n'a pas dit payer de l'offrande. Hein? Il n'a pas dit porter un vêtement spécial. Il n'a pas dit aller à la confesse ou n'importe. Il a dit crois, ayez confiance au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et le verset 34, encore, les ayant conduits dans son logement, il le servit à manger et il réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Donc il est évident, quand ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire qu'ils ont reconnu leur tort, ils ont reconnu le péché, qu'ils avaient besoin que Dieu les pardonne, et donc ils ont invoqué le pardon du Seigneur. Quand ils ont invoqué le pardon du Seigneur, ça voulait dire qu'ils avaient confiance dans l'efficacité de ce sacrifice du Seigneur Jésus-Christ quand il était sur la croix et qu'ils ont cru que Jésus-Christ avait s'était revenu à la vie, c'est-à-dire il est ressuscité parce qu'il avait vaincu la mort. Donc ça c'est toujours vrai aujourd'hui. Une personne qui veut entamer sa relation avec Dieu doit reconnaître ses péchés, invoquer le nom du Seigneur en croyant que le Christ est mort sur la croix pour ses péchés. Une fois pour toutes, il ne fait pas un sacrifice tous les jours, ou tous les années, ou tous les 100 ans, ou n'importe. Il est mort une fois pour toutes, et il est ressuscité une fois pour toutes, et il est remonté auprès de son Père. Et comme nous avons vu dans l'étude tout à l'heure, un jour, Jésus va revenir. Amen. Donc là, c'était une petite question de la famille dans l'Antiquité, sous le rubrique l'autorité de la famille. Alors maintenant, je voudrais vous montrer une autre chose. Je ne sais pas si vous pouvez le lire de là où vous êtes, mais c'est un petit schéma de la famille, l'autorité dans la famille, mais pas dans n'importe quelle famille, dans une famille libre. Parce qu'on n'encourage jamais des gens à devenir des esclaves. Hein? Vous êtes d'accord? On n'encourage jamais Abraham à devenir esclave. Mais on encourage toujours dans l'autre sens, de devenir libre. Parce que l'homme libre peut faire comme il veut. Tandis que les ouvriers ou les esclaves ou les domestiques doivent suivre les ordres. D'accord? Donc, l'objectif, c'est d'être le patron dans son propre foyer. OK? Et donc, l'autorité dans une famille libre dans la Bible serait avec l'homme en haut. Il est le chef dans la famille. Et sous son autorité, il y aura donc les ouvriers qui sont dans son atelier. Ah, on ne parle pas dans l'Antiquité. Dans son atelier. Et il aura les relations dans la société. Donc, il va être dans les associations, etc. Peut-être président d'une association, qui sait. Donc, il y aura une autorité dans la société. Ou peut-être le maire de la ville même, qui sait. Et il aura autorité sur sa femme. Sa femme aura aussi des relations extérieures avec la société. Vous voyez, ça passe ici et ça revient à l'autre côté. OK? Et la femme va avoir l'autorité directe sur ses enfants, sur les domestiques et sur les affaires de la maison. C'est-à-dire que l'homme n'a pas le droit à entrer dans le domaine de la femme pour régler quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc, pour être très pointilleux, moi, je n'ai pas le droit à entrer dans la cuisine et manger ce que je veux dans le réfrigérateur. Il faut demander à ma femme. Mais c'est ça l'idée. Donc, la façon que Dieu l'a montré dans la parole de Dieu, c'est que la femme s'occupe de ce qui est à l'intérieur de sa domaine domestique. Tandis que l'homme a, dans son entreprise de maison, en dehors du parti domestique, il a l'entreprise. Bon, pour nous, peut-être, monsieur va au travail. Ou peut-être, monsieur est patron au travail. Il a une entreprise. Mais ce n'est pas tout le monde qui est patron du travail. Donc, quand même, il va être à l'extérieur. OK? Et donc, c'est là qu'il va avoir des ressources, des revenus, qui vont pourvoir pour ce qui se passe à l'intérieur de sa propre maison. Lui, il a un côté extérieur et elle a surtout à l'intérieur. Mais on sait aussi dans les proverbes qu'elle pourrait avoir des aspects extérieurs. Et c'est pour ça que j'ai montré qu'elle a de la relation avec la société, parce que la femme n'est pas une esclave à l'intérieur de maison de l'homme. Hein? Attention. Hein? Donc, c'est très beau le schéma que donne la Bible à la famille. D'accord? Donc, regardez maintenant dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Et le verset 25. Éphésiens chapitre 5 et verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Quand la Bible nous dit ça, ça veut dire que l'homme a l'obligation de chercher le bien de sa femme. Il doit pratiquer la bonté envers elle au point où même qu'il se sacrifie sa vie, sa propre vie, pour la protéger. Et donc l'homme dans la famille est l'autorité. Il a l'autorité sur la femme, sur les enfants, sur les domestiques, sur les ouvriers dans son entreprise et selon son activité dans la société. Dans Éphésiens chapitre 5 et verset 22, la parole de Dieu nous dit, « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. » Donc je m'arrête là. « Comme au Seigneur. » C'est-à-dire que la femme a l'obligation de soumission comme au Seigneur. Qui veut dire, quand la femme n'est pas soumise à son mari, elle n'est pas soumise au Seigneur non plus. La femme chrétienne, nous apprenons dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 10, elle dépend. C'est-à-dire, la femme doit porter une marque de l'autorité dont elle dépend. Et là, dans le texte biblique, c'était une voile d'une certaine couleur. Si elle était dépendante de son père, et une voile de l'autre couleur si elle était dépendante de son mari. D'accord? Nous, c'est la bague. Hein? Les alliances, n'est-ce pas? Alors, la femme qui n'a pas de bague, elle dépend de son père. Et elle qui a une bague dépend de son mari. Donc, elle qui n'a pas de bague est mariable. Elle est libre. Elle peut se marier. Mais elle qui a une bague, elle ne peut pas se marier parce qu'elle est déjà mariée. D'accord? Donc, on parle de l'autorité dont elle dépend. C'est une question de l'autorité, une question d'ordre. Donc, la femme est l'autorité dans la maison. C'est bizarre, hein? La femme est l'autorité dans la maison. Donc, le patron, le père qui va gérer son entreprise, il est le patron. Et il arrive à la maison. Mais dans la maison, qui est le patron? La Bible dit qu'elle est le despote. C'est ça. La Bible dit que la femme est la despote à l'intérieur de la maison. Et donc, monsieur entre dans le domaine d'une autre personne quand il arrive à la maison. Hein? Elle est l'autorité dans la maison. Elle a l'autorité sur les enfants, sur les domestiques, sur les affaires de la maison. Okay? Et puis les enfants, chapitre 6 et verset 1 et 2. Éphésiens chapitre 6, verset 1 et 2. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alors, sous-entendre, Moïse a dit, un enfant qui déshonore ses parents doit être mis à mort. C'était sévère. Même les lois romaines maintenaient le même principe. Le père pouvait mettre à mort les enfants pour quelconque infraction. C'était sévère. Nous, c'est complètement différent de nos jours. Hein? Et je ne parle pas de nos jours, hein? Je parle dans l'Antiquité. Hein? Mais, hein? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Hein? Que tu vives. Hein? Parce que sinon, il y avait des punitions très sévères. Hein? On n'avait pas encore l'inquiétude de trop de peuple sur la terre. Donc, un enfant plus, un enfant moins. Hein? C'est terrible de le dire. Mais c'était comme ça, la civilisation à l'époque. Et donc, les enfants n'ont pas d'autorité. Ils ont de l'autorité sur rien. D'ailleurs, sur mon petit schéma là, vous ne pouvez pas le voir, mais j'ai une ligne qui monte là, des domestiques pour monter là sur les enfants, parce que les domestiques avaient plus d'autorité dans la maison que l'enfant. Mais vous pouvez comprendre quand même que à l'école, hein, l'enfant doit être soumis au maître, à la maîtresse à l'école. Mais dans le temps, c'était le tuteur qui allait enseigner. Donc, l'enfant était mis sous le tuteur. Le tuteur, donc, avait de l'autorité sur l'enfant qui était sous sa charge. Ça va tout le monde? OK? L'enfant a l'obligation d'obéissance et de respect pour l'autorité. C'est ça que l'enfant a. Il a l'obligation pour l'obéissance. Il doit obéir et il doit respecter l'autorité. Qu'est-ce qui deviendra d'un enfant qui ne respecte pas l'autorité? Que ce soit la mère, le père, la police, la maîtresse à l'école, n'importe. Qu'est-ce qui deviendra de cet enfant-là? Il sera un criminel plus tard. Hein? Oh la loi! Il ne peut pas se soumettre. Bon, on parle d'autorité. L'autorité, globalement dit, ça veut dire que chacun doit gérer sa vie. Il faut que, donc, le texte qu'on a lu, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Vous allez au travail, Jean-Pierre. Le patron te dit, tu fais ça. Mm. Oh, mais non, je ne veux pas. On ne peut pas dire ça.
Non,
il ne
faut pas
faire ça. Non. Il dit, faites ça, vous faites ça. Aujourd'hui, tu vas travailler sur cette machine-là. On va travailler sur cette machine-là. Pourquoi? Parce que c'est l'autorité au-dessus de moi. Donc, moi, je conduis ma voiture. Le feu, vert, je vais. Rouge, je m'arrête. Pourquoi? Parce que l'autorité oblige que je me soumette. Mais je suis pressé, je ne veux pas m'arrêter. Faut se mettre. Faut se soumettre. Les enfants n'ont pas d'autorité. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Hein? Aujourd'hui, les enfants ont des droits. Hein? Aujourd'hui, les enfants ont des objets qui appartiennent aux enfants. Hein? Donc, ils ont l'autorité sur leurs affaires à eux. Hein? Mais ils n'ont pas l'autorité sur les affaires de papa. Ils n'ont pas l'autorité sur les affaires de maman. Ils n'ont pas l'autorité sur maman ni sur papa. N'est-ce pas? Vous suivez? Hein? L'enfant va se soumettre à ses parents. La femme va se soumettre à son mari. Le mari va se soumettre à son patron ou à son travail ou au gouvernement, etc. Bon, la femme aussi. L'enfant doit se soumettre au gouvernement aussi. Alors, je vais où là? Donc, la famille, donc, fonctionne un peu comme une entreprise. Et les décisions seront prises par la direction. La direction, c'est-à-dire l'autorité. L'autorité, c'est-à-dire le père. Dans l'entreprise qui s'appelle la famille, le responsable, c'est le père. Alors, donc, ils peuvent avoir des opinions diverses. Évidemment, si tout le monde avait la même optique, ça ne vaut pas la peine de parler. Mais il y a toujours des optiques différentes. Et donc, les options et les idées sont présentées et développées par le conseil. Le conseil, on pourrait dire, donc, la femme et les enfants. Hé, hey, papa, pourquoi on ne fait pas ça ce week-end? Bon, on va discuter. On parle. Et donc, on décide. On décide. Et quand le père dit, oui, je suis d'accord, donc, ce n'est pas pour dire que les enfants sont l'autorité dans la maison, mais c'est le papa qui dit, je suis d'accord, on va faire ça. C'est une bonne idée. Parce que hein, les enfants, les femmes ont souvent les bonnes idées. Ce n'est pas que l'homme qui a les idées. Hein, et des fois, elles ne sont pas trop bien les idées des enfants. Donc, il y a besoin de ce conseil. Regardez donc Éphésiens chapitre 5 et verset 33. D'où est-ce que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Éphésiens chapitre 5 verset 33. D'où est-ce que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. L'idée c'est que même si le mari prend les mauvaises décisions, il faut le respecter. Il faut respecter l'autorité. Pourquoi? Parce que l'autorité est établie par Dieu. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec la décision. Hein, que la femme soit d'accord avec la décision. Mais que la décision était faite par l'autorité, donc on respecte l'autorité. Donc, les décisions seront prises par l'autorité. Les décisions peuvent être des décisions actives ou passives. Trop souvent, les hommes laissent les décisions passives. Des fois, une décision passive est acceptable. Il y a des fois que les présidents, ils ne signent pas une loi, mais ils ne la nullifient pas non plus. Ils laissent entrer dans la législation en faisant rien du tout. Vous me suivez? Hein? Mais normalement, on est actif. On dit oui, on va faire ça, non, on ne fait pas ça. Donc ce sont des décisions actives. Et ça peut être une bonne décision. Eh, voilà, papa, c'est bien. Ou une mauvaise décision. Oh, papa, c'est stupide ça. Hein? Si le papa, il prend tous les ressources, tous les revenus, et il fait un investissement pour devenir millionnaire, et il perd tout. On va subir les conséquences. Mais il a pris la décision. La femme aurait dû dire quelque chose avant qu'il a tout mis. Hein? Et puis, donc il y a les bonnes décisions, les mauvaises décisions, et puis il y a l'absence de décision, comme j'ai dit, la décision passive. Mais les conséquences suivent toute décision. Il y a toujours des conséquences. Et c'est l'homme devant Dieu. C'est l'homme en premier qui porte la responsabilité pour toute décision. C'est peut-être les enfants et la femme qui vont subir les conséquences dans le sens physique et psychologique, etc. Mais devant Dieu, c'est l'homme qui est responsable. Non, mais non, j'ai pas pris de décision, c'est ma faute, c'est pas ma faute, c'est pas moi qui ai décidé. J'ai rien fait. Oui, ça c'était une décision de ne rien faire. Et donc l'homme est responsable. Vous m'accordez encore 5 minutes? Hein, parce que... Regardez dans Genèse chapitre 12. C'est très rapide, mais... Genèse chapitre 12. Il y avait, en Genèse chapitre 12, verset 10, il y a eu une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarah, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laissera la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Elle était vieille aussi, hein, mais était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traitait bien Abraham à cause d'elle, etc., etc. Vous savez, Abraham a pris une très mauvaise décision. Premièrement, Dieu a dit, tu vas en Canaan. Et lui a dit, je vais visiter en Égypte. C'était lui qui a pris la décision. Il n'a pas suivi la volonté de Dieu. Il arrive là-bas, et face à ce dilemme, qu'il pense qu'on va le tuer, et qu'ils vont voler sa femme, au lieu de remonter hein, dans la volonté de Dieu, il dit, écoute, ma femme, je voudrais que tu vas chez l'homme, chez notre homme. C'est aberrant quand même. Il n'était pas un très bon chrétien. Hein, j'utilise le mot dans un sens très grand. Hein, mais pour dire, hein, Abraham n'était pas un très bon chrétien. Il n'avait pas beaucoup de foi. Hein, dans ces circonstances-là. Hein, et en plus, il n'a pas protégé sa femme. Il a mis sa femme dans les bras de notre âme. C'est ridicule. Mais Sarah a soumis à la décision de son mari. Mauvaise décision. Mais elle s'est soumise à cette mauvaise décision. Et je dirais que sa soumission était une expression de sa confiance en Dieu, malgré la mauvaise décision de son mari. On n'en dit pas, on ne le dit pas. Mais moi, je ne peux pas imaginer ma femme aller chez Jacques Chirac ou quelqu'un. Quand même. Hein? Mais elle a fait. Elle a fait. Elle a été mise dans le harem. Harem. De Pharaon. Et Dieu a protégé Sarah, en dépit de cette mauvaise décision. Mais il y a toujours des conséquences. Et voilà les conséquences. Abraham et Sarah ont acquis l'esclave Agar. Agar. Vous vous souvenez d'Agar, hein? Mamad Ismaël, dont on lit quotidiennement dans les journaux. Hein? Eh bien, elle va jouer un rôle néfaste à la fois dans sa famille et dans l'histoire du monde. Conséquences, il y a toujours des conséquences. C'est la faute d'Abraham. Tout ça, parce qu'il n'a pas suivi la volonté de Dieu, parce qu'il a pris une mauvaise décision aussi. Mais Sarah, c'est elle, dans cette histoire, qui vraiment brille par sa confiance qu'elle avait en Dieu. Donc le texte dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc, la conclusion, que chacun soit soumis aux autorités. La rébellion, l'insubordination, l'insoumission, la désobéissance, ce sont des fautes graves contre l'ordre de Dieu, l'ordre que Dieu a établi. Romains chapitre 13, verset 1. Retournez à la maison et lisez-le. Toute autorité. Ah ben non, pas le régime communiste, Dieu n'a pas établi ça, mais quelque part, oui. Parce que la Bible le dit. Hein? Par exemple, que faire donc? Examinez votre vie. Relisez Romains chapitre 13, verset 1. Examinez votre vie. Et s'il faut donc, mettez-vous en règle avec Dieu. Mettez-vous en règle avec l'autorité. Une petite phrase. Mon père a dit, mon père m'a pas donné beaucoup de conseils, mais il dit, faut jamais tricher sur vos impôts. Faut accepter le conseil, n'est-ce pas? C'est l'autorité, n'est-ce pas? Amen. Prions. Père Céleste, nous voulons être des bons chrétiens, nous voulons ne pas faire des bêtises, mais Seigneur, que tu donnes sagesse aux hommes dans cette assemblée d'être des hommes responsables qui gèrent bien les confiances que tu les as données, qui protègent et pourvoient pour leur famille, et que tu donnes cette grande foi à nos femmes qui ont certainement, pas peut-être toutes, mais des fois, de mal à avoir confiance dans leur mari parce que peut-être le mari ne le mérite pas, mais toi, tu mérites la confiance des femmes. Seigneur, que tu les aides à avoir confiance en toi en dépit des mauvaises décisions faites par nous les maris. Et donc, Seigneur, que les enfants puissent être obéissants et avoir ce grand respect qu'ils doivent avoir pour les autorités. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, amen.
Amen.
Amen. Que Dieu vous bénisse.